France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les midis de culture à 13h. Je serai en compagnie du prix Nobel de littérature Patrick Modiano. Il nous reçoit chez lui avec à ses côtés Christian Mazalaï pour la sortie de leur livre commun 70 bis entrée des artistes aux éditions Gallimard. Mais en ce jour de Noël, nous voulions commencer cette émission par un débat critique un peu particulier. En réalité, la critique va faire place aux souvenirs. France Culture propose depuis le début du mois de décembre de redécouvrir les grandes voix qui sont venues au fil des décennies parler à nos micros. Une façon de célébrer ensemble les archives de cette antenne, non pas seulement comme des témoins du passé, mais bien comme des résonances vivantes qui font penser, frissonner, rire, et surtout qui nous font collectivement avancer. Et pour cet exercice de mémoire au présent, ce soit trois producteurs de France Culture qui sont autour de notre grande table du jour, Caroline Brouet, Emmanuel Laurentin et Antoine Guillot.
Un générique un peu exceptionnel parce qu'il faut aider notre invité qui a un peu perdu l'habitude.
Nuit magnétique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, auditeurs, auditrices des rencontres de Pétrarque.
Vous écoutez France Culture, il est 10h, à présent Concordance des temps, présentée par Jean-Noël Jeannenet, bonjour.
Bonjour.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Bonjour et bienvenue dans Plan Large, le nouveau magazine du cinéma sur France Culture.
Bonsoir.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. Petit problème technique pour entamer cette émission, mais tout va bien, tout est réglé.
Bonjour à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance.
Bonjour, il est 7h sur France Culture. Nous sommes le samedi 5 avril 1986. C'est Marie-Hélène Baconnet au micro, jusqu'à 8h, comme chaque samedi. Nous avons rendez-vous pour Fréquence Buissonnière.
Comme chaque semaine, c'est du grand hall de la Fabrique de l'Histoire que nous avons le meilleur point de vue sur les salles de la Fabrique que vous allez parcourir avec nous aujourd'hui.
France Culture, le monde appartient à ceux qui l'écoutent.
Caroline Brouet, Emmanuel Laurentin et Antonio, merci à tous les trois de partager avec nous ces midis de Noël. Je crois
que des émissions en public avec des conditions sonores déplorables. Vous ne nous avez pas aidé.
Vous avez reconnu quelques-unes des voix, j'imagine.
Bon, en 86, j'étais au collège quand même, parce que là, on est un peu à la réunion des vieux briscards. Mais enfin, je ne remontais pas si loin. Hein.
Alors, peut-être les règles du jeu pour commencer cette émission. Elles étaient claires, je crois. Vous deviez proposer chacun une archive qui vous a marqué dans votre vie d'auditeur et ou de producteur. Nous allons les écouter, puis commenter vos choix ensemble. Mais peut-être avant de nous lancer, un premier tour de table dans les différentes émissions que vous avez menées. Quel rôle ont joué les archives pour vous? Comment vous les avez utilisées? Antoine Guillot, peut-être, pour commencer.
Alors, moi, je vais botter un peu en touche parce que dans l'émission que je fais, en tout cas actuellement, je n'utilise pas d'archives et pourtant, je n'utilise que des archives. C'est-à-dire, je n'utilise pas d'archives de la radio ou alors très rarement. J'ai dû en passer une de Claude Jean-Philippe au moment de son décès parce que, étant un lointain héritier avec Plan Large de son émission formidable Le cinéma des cinéastes, je me devais qu'on l'entende. Mais si on considère que tout film est une archive en soi plus ou moins lointaine d'un moment qui est celui de son tournage, de sa conception, de son élaboration, on pourrait dire que mes émissions ne sont constituées que d'archives.
Et pour vous, Caroline Brouet, est-ce que les archives, elles sont avant tout un moyen de faire avancer la discussion?
Oui, ça peut être ça. C'est pas seulement ça, mais ça peut être ça, effectivement, de faire avancer la discussion. Moi, je dirais que c'est un peu entre le, pour faire très snob, entre le palimpseste hein, et moins snob, et le millefeuille. C'est-à-dire que, par exemple, à la grande table que j'ai produit et animé pendant 6 ans, il y avait beaucoup de grandes voix. Donc, je construisais, c'est ça, c'était un palimpseste et un millefeuille à la fois. Ça, je construisais en me servant de ce que j'avais entendu, de ce que les invités précédents avaient dit, par exemple. Et donc, on avançait à la fois dans cette émission-là, mais d'une émission par rapport à l'autre. Dans Les Bonnes Choses aujourd'hui, je me sers souvent de vieilles publicités. J'adore les très vieilles publicités qu'on n'entend évidemment plus du tout et qui viennent de la radio, qui viennent de la télévision, quoi, par exemple. Donc là, c'est vraiment plus pour une ambiance, pour de l'émotion, plutôt que de faire avancer la discussion.
Et Emmanuel Laurentin, quand on parle d'histoire, le statut de l'archive, elle est forcément un peu particulière, non?
Oui, mais enfin, c'est le cœur du problème. C'est le cœur de la question qu'on pose quand on fait de l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des archives? Comment on les travaille? Comment on les réinsère dans un récit d'aujourd'hui? Et c'était le grand travail qu'on avait mené avec toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire pendant plus de 20 ans. Parce que, en fait, pour nous, cette archive, il y a d'abord l'aspect de la nostalgie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on entend une archive pour la première fois, on a une sorte de vertige. C'est la première fois qu'on entend cette archive. La deuxième fois, on commence à avoir un effet de reconnaissance. Troisième fois aussi. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit quand même que l'archive, elle s'use. Surtout qu'elle s'use de façon considérable depuis la numérisation, depuis le fait que aujourd'hui toutes les émissions, grâce à l'INA, à la numérisation des archives de l'INA, toutes les émissions peuvent se procurer dans l'instant même, ou quasiment dans l'instant même, des archives qui sont conservées à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel. Et donc, au bout d'un certain temps, on les a déjà beaucoup entendues. Enfin, le « Je vous ai compris » de Gaulle, c'est formidable quand on l'entend la première fois, ou le discours de Malraux pour au Panthéon pour la panthéonisation de Jean Moulin. C'est extraordinaire. Moi, j'ai le disque à la maison, je me l'écoute pour moi. Mais d'une certaine manière, au bout d'un certain temps, on l'a trop entendu. Mmh. Donc, il faut toujours renouveler l'archive. Et ça fait partie du métier qu'on faisait quand on allait... avec nos équipes de la Fabrique de l'Histoire, on allait chercher des archives nouvelles. On va chercher partout où des gens ont pu enregistrer quelque chose entre les années 30 et aujourd'hui. Et c'est tout le travail qu'il fallait faire pour pouvoir justement ne pas avoir cette impression de déjà entendu.
Alors je vous propose de commencer à déballer nos cadeaux, peut-être avec vous, Caroline Brouet. Nous sommes à Moscou en 2012. Je vous propose d'écouter, puis vous nous expliquez après.
C'est avec un grand intérêt que j'ai écouté ce qui se disait ici.
Et je dois dire
que je voudrais soutenir Зоя Светова dans son inquiétude, dans son angoisse par rapport à ce qui se passe en Russie actuellement. Et je suis prêt à répondre... tout de suite à André Gelasimov, à Yuri Buda,
et notamment,
oui, la littérature, écrire les livres, faire de la musique, oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire d'une manière concentrée au maximum, et il ne faut faire que ça.
Mais
ce n'est pas un devoir civique. C'est un devoir de don, si tu as ce don. Mais il y a aussi un devoir civil. Et c'est autre chose. Donc, ce que je fais en tant que musicien,
et
donc ma participation au mouvement de citoyens, au mouvement politique, est une chose de principe pour moi. Je ne sais pas comment on peut s'intéresser à l'histoire de la Russie sans y prendre part. Parce que c'est justement à présent qu'on fait l'histoire. Comment on peut contredire à ce point à soi-même, parler de l'histoire et ne pas comprendre que de notre choix actuel, c'est de ça que dépend l'histoire.
Caroline Brouet, vous meniez alors la grande table. Nous sommes à Moscou en 2012. Alors pourquoi d'abord êtes-vous à Moscou et qui avez-vous autour de vous?
Alors, on est à Moscou en mars 2012, on est 2-3 jours avant l'élection présidentielle qui va réélire pour la troisième fois, pour le troisième mandat, Vladimir Poutine, dans un contexte assez inédit de très grandes contestations dans les rues de Moscou et dans les rues de Russie plus généralement, ce qui ne s'était jamais vu. Donc il y a des milliers, des dizaines de milliers de manifestants à ce moment-là dans les rues. On y est parce qu'à une époque, entre 2010 et 2015, la radio bougeait beaucoup, se déplaçait beaucoup, se délocalisait, on disait c'est un mot qui a disparu, se délocalisait beaucoup, et beaucoup, beaucoup d'émissions, en particulier les matins, le midi et le soir, allaient, alors un peu partout, on est allé à Haïti, à Alger, à Tunis, à Sarajevo, à Beyrouth, et donc là, à Moscou, partout où ça bougeait, partout où l'événement avait lieu.
Et qu'est-ce que ça changeait d'être sur place ?
Tout. Tout. On entend, là par exemple, on entend la voix de qui ? C'est un pianiste, compositeur, chef d'orchestre, Mikhaïl Arkadiev, qui venait d'être démis de ses fonctions parce qu'il était déjà trop opposant. On entend, là, la voix de l'interprète est assez calme par rapport à lui. On entend, lui, il est déjà essoufflé, il est déjà en colère. Et il arrive, en fait, à la fin, dans le dernier quart d'heure de cette heure de deuxième partie de la grande table, on a entendu Yuri Buida, qui est un écrivain qui a été très connu pour Le Train Zéro, traduit en 1981. 1998 en France, mais qui parlait du devoir de l'écrivain comme d'écrire tous les jours et qui n'était pas trop pour la diabolisation de Poutine. On a entendu Andrei Gerasimov, très connu pour ses livres parus chez Actes Sud, écrivain qui défendait la position de l'observateur de la société. On discutait en fait du rôle de l'art, de l'intellectuel, de la littérature, des écrivains, de l'engagement, de la responsabilité. C'était ça le débat. C'était un moment très fort. Et arrive Mikhaïl Arkadiev, après quelques notes de piano, de sa composition, pour dire à quel point il n'est pas d'accord avec ce qu'il vient d'entendre, et qui accuse à demi-mot Youri Buida de soutenir Poutine contre d'autres artistes de cynisme, d'opportunisme. Donc, il est très, il est très fébrile. Et ça monte. Là, ce que je vous ai dit, ce qui s'est dit avant, mais après ça, il continue de parler et on entend une porte qui claque parce que Zoya Tsvetaeva reprend la parole, Youri Buida reprend le micro et on entend une porte qui claque. Et en fait, c'est un des écrivains, Youri Buida en l'occurrence, qui est parti sans le dire. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation extrêmement tendue, dans un débat extrêmement fort. C'est un des souvenirs de ces déplacements les plus forts que j'ai. Et évidemment, il y a aussi le rapport à l'histoire, petit clin d'œil à Emmanuel à mes côtés là, mais aussi la résonance, vous avez dit Marie, c'est des archives qui résonnent, qui sont encore vivantes. Et évidemment, j'ai aussi pensé à ce qui se passe aujourd'hui, à la façon d'entendre là-bas, sur place, des gens parler, à la façon dont les écrivains, les artistes aujourd'hui ne s'expriment plus, on ne les entend plus, ces gens de Russie aujourd'hui. Je m'arrête là.
Emmanuel Laurentin, quand le pianiste qu'interview Caroline Brouet dit « écrire des livres, faire de la musique, c'est ce qu'il faut faire, ce n'est pas un devoir civique mais un devoir d'homme », évidemment quand on entend cette phrase en 2025, ça résonne différemment.
Évidemment, c'est une archive très forte effectivement, parce qu'elle nous dit qu'il y a un continent disparu. Ce continent disparu, il n'est plus en Russie, il est de tous les opposants de Vladimir Poutine aujourd'hui, ben il est sur l'ensemble du globe, sauf en Russie. Donc c'est aussi la vertu de ces archives, c'est-à-dire c'est de nous dire que le passé n'est pas le présent. Alors parfois on a un effet de reconnaissance, parfois on se dit eh bien on écoute cette archive, ça me dit quelque chose, c'est une concordance des temps, comme dirait Jean-Noël Jeannet, mais d'autres fois, effectivement, ça nous montre l'immense étrangeté du passé.
Antoine Guillot, vous avez senti cette immense étrangeté ?
Oui, mais j'ai surtout senti ce moment où nous-mêmes, nous voulions croire encore oui. que la culture pourrait faire bouger les choses là-bas. C'est-à-dire que l'archive date de 2012, ils en ont encore pour 2 ans à pouvoir parler. Après, c'est la première invasion de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, et là, c'est fini. En fait, ça clôt un chapitre qui s'était ouvert avec la Perestroïka, quand, moi, pour le cinéma, ça a été fascinant de voir ces premiers cinéastes russes libres qui arrivaient.
Pavel Lungin.
Pavel Lungin, Kanievski, etc. Enfin, tout d'un coup montrer une autre image de ce qu'était encore l'Union soviétique puis de ce qu'allait devenir la Russie et on voulait y croire jusqu'au bout. Et Zviagintsev, on l'a rencontré systématiquement, puis on a vu qu'il commençait à avoir des problèmes. Alors les problèmes, c'était parce qu'il utilisait un langage un peu ordurier, qui était le mat, l'argot russe, et on l'attaquait là-dessus. Puis on s'est mis à attaquer des Serebrennikov sur des questions de représentation sexuelle, de le côté LGBT, tout ça, ça passait très mal. Ce qu'on n'a pas perçu sans doute à ce moment-là, c'est l'étau vraiment totalitaire qui se refermait sur la culture russe. Et ce qui est terrible maintenant, quand on voit les films de Losnitsa, qui lui est ukrainien, mais qui montre comment la culture russe reste à défendre, parce que ce sont ces gens qu'on a entendus qu'il faudrait défendre et qui sont maintenant mis dans le même sac dans toutes les attaques qu'il y a sur la Russie. Et en Ukraine, actuellement, on brûle leurs livres.
On va passer à la deuxième archive de notre programme, c'est celle d'Antoine Guillot. Alors je ne vous dis rien, ouvrez bien vos oreilles et tentez de deviner à quoi nous avons affaire.
Avec la télécommande, vous pouvez agir commodément à distance sur toutes les fonctions du laser.
Pour alimenter quoi, monsieur ça ?
Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'a demandé. Ah, oui,
non, mais... vous me posez à qui je vous demande ?
C'est quoi comme appareil ? Pour vous envoyer à un endroit, il faut que je sache d'abord ce que c'est, monsieur. Je ne vais pas vous envoyer n'importe où comme ça.
Ok, ça va, merci.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Ok.
D'accord.
Vous voyez, on peut ramasser par terre avec ça ?
Bien sûr.
Vous êtes sûr ?
Tout ce qui est à base de fer, il n'y a pas de problème. Hein.
Bah, j'en avais un plus gros et...
Ah non, enfin, c'est tout ce que je fais en fer à cheval.
Oui, mais ça...
En aimant, bien sûr.
Vraiment ? Ouais. À quelle distance ?
Ah bah, à quelle distance, il faut le poser quand même. Ah bah non, pas d'ici. Un aimant qui prend d'ici, c'est un électro-aimant. Hein.
Je voudrais, oui, ramasser par terre. Il faut le mettre à quelle distance ?
Normalement, il faut le mettre pratiquement par terre. Hein. Si vous voulez ramasser à distance. Ah non, à distance, c'est quasiment impossible.
Oui, mais je voudrais ramasser des choses qui ont glissé, par exemple, derrière une armoire, vous voyez, et qui fait 30 cm.
Ouais, non, je vous dis, si vous pouvez pas le descendre, c'est pas la peine.
L'intérêt, c'est que...
Ah, je ferai rien du tout. Hein.
Alors, où est-ce que je pourrais trouver ça?
Quelque chose d'aussi costaud dans le magasin, nulle part. Ah non, je vous dis, pour ramasser quelque chose d'aimanté hein, avec un aimant à 30 cm, c'est un électro-aimant, c'est un aimant gigantesque.
Bon, d'accord, merci.
Allez voir au premier étage peut-être.
Bon, Antoine Guillot, j'ai respecté votre souhait de ne rien dire avant, mais là, il va falloir un petit peu nous éclairer. Qu'est-ce que nous venons d'entendre?
Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un psy qui s'appelle le Youpi.
Oui,
est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Alors, le psy, c'est un petit film sans images. Dans l'émission de cinéma qui avait lieu sur France Culture tous les mercredis soirs de 19h30 à 20h30 entre 1999 et 2002, l'émission Personne n'est parfait, qui était produite par Marc Gouinchet, c'était une émission qui voulait faire du cinéma à la radio. Pas seulement parler de cinéma, mais être en cinéma, comme disait Marc Gouinchet, devenu depuis le directeur de France Musique que l'on sait. Et ça consistait par exemple, à demander à des cinéastes de produire avec les moyens de la radio, avec Clotilde Pivin qui était notre réalisatrice à l'époque et qui venait pour le montage, faire des petits films sans images, les fameux psy. Alors il y avait eu Nicolas Philibert, il avait posé ses micros à côté de José Bové pendant des dédicaces au Salon du Livre. On avait eu Raphaël Nadjari qui avait fait un portrait de son arrivée à New York en 1997 et puis on avait même fait de la pornophonie avec Damien Odoul qui avait enregistré un couple dans ses ébats en adaptant le Ecce Homo de Nietzsche. Donc ça donnait des objets très bigarrés. Et alors ce psy que vous venez d'entendre, il est réalisé par Émilie Deleuze qui avait été avec Nicolas Philibert les deux premières invitées de Personne n'est parfait. Et elle avait posé ses micros, vous avez peut-être fini par identifier le lieu, au rayon bricolage du BHV.
En voie de disparition.
Quand il y avait encore vrai rayon bricolage. Alors là, ça fait doublement archive. C'est-à-dire que non seulement c'est l'archive d'une émission passée, il faut vraiment aller sur l'INA pour les retrouver, mais ça documente un moment particulier de ce lieu incroyable qu'était le BHV, qui tenait à la fois de la cour des miracles, du grand asile de jour, c'est-à-dire que les gens venaient avec des angoisses terribles parce qu'ils avaient un problème très concret qu'ils essayaient de résoudre et ils n'arrivaient pas à mettre les mots dessus. C'est-à-dire qu'ils cherchaient des...
Mais il y avait toujours quelqu'un pour très bien renseigner.
Ils cherchaient des objets, alors on pouvait appeler ça, vous n'avez pas le Youpi là qui me sert à comme ça, incapables de nommer ce qu'ils ont dans les mains, donnant toute leur angoisse à des gens très calmes et très professionnels, comme on l'a entendu, qui essayent de résoudre leurs problèmes, par exemple de récupérer quelque chose de
et
métallique avec un petit aimant. Et ils étaient extraordinairement compétents. Et quand ils ne l'étaient pas, ils habillaient tout ça d'un langage extraordinaire.
Un électro-aimant.
On est un électro-aimant dans une décharge et vous résoudrez votre problème. Et c'était quelque chose d'assez magnifique. Le film, parce que c'est vraiment un film qu'elle a réalisé, mais un film sans images, donc c'est qui laisse énormément de place aussi à
qui
l'imaginaire.
Qui s'appelle le Youpi d'ailleurs, je sais pas
ça
si
s'appelle
vous l'avez
le Youpi. Si, je vous ai dit, c'est un psy qui s'appelle le Youpi. Et il est signé par Émilie Deleuze. Et en même temps, on faisait toute une sérialisation de la préparation d'un de ses films. On avait un rendez-vous avec elle tous les mois. Et on venait en reportage chez elle sur la fabrication d'un film qui devait s'appeler Cataclope 17 et qui est devenu Mister V. Voilà. Donc ces petites archives, moi j'ai un souvenir très ému.
Hein,
j'ai un souvenir très ému de ces moments de cinéma qu'on a fabriqués à la radio.
On a partagé votre émotion, Antoine Guillot. Merci de nous la faire partager. Emmanuel Laurentin, vous avez choisi de nous faire écouter un extrait qui vient d'un LSD intitulé Sur les traces de Charles Wolff, l'homme archive que l'on peut découvrir en ce moment sur France Culture. Peut-être avant d'écouter un mot sur lui, et qui était-il ce Charles Wolff?
Alors Charles Wolff, je l'ai découvert il y a très peu de temps, il y a à peu près 6 mois, puisque le responsable de ce qui est le grand hangar dans lequel Radio France stocke ses disques, ses livres, ses partitions de musique, m'a appelé un matin. Je partais sur mon vélo pour arriver à la maison de la radio. Je lui ai dit, j'ai 5 minutes, je suis désolé, je ne veux pas me faire arrêter par les policiers. Et il m'a dit, je vais vous dire ça très rapidement. Ça fait 7 ans que je travaille sur un personnage qui était un des plus grands collectionneurs de disques 78 tours de l'entre-deux-guerres. Il s'appelait Charles Wolff et il était alsacien et juif. Et en 1940, il a dû quitter Paris dès l'arrivée des Allemands. Il est parti à Toulouse où son frère était déjà installé. Et puis ensuite, il a travaillé à Marseille, m'a-t-il dit, où il était un de ceux autour de Varian Fry qui exfiltrait ou tentait d'exfiltrer les gens qui étaient menacés par le nazisme par le port de Marseille pour aller aux États-Unis. Et ensuite, il a été tué par la milice toulousaine une fois qu'il était rentré dans la résistance. Donc il me raconte ça, je lui dis, ah, c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et il me dit, voilà, j'ai déjà écouté des séries de LSD. Et je pense qu'on peut faire quelque chose à partir de cette histoire, puisque dans un fond, le fond de la discothèque de Radio France, il y a plusieurs milliers de disques qui viennent d'une collection Charles Wolff, c'est inscrit sur les disques, et parmi eux, il y a 400 disques de paroles. Alors ceux qui ne connaissent pas la radio voient pas très bien ce qu'est un disque de paroles, ce sont des disques qui étaient utilisés par nos ancêtres qui faisaient de la radio pour diffuser des reportages, des grandes voix, des grands entretiens, etc., etc., qui étaient des disques de 78 tours aussi, et qui donc sont conservés dans les fonds de la radio, et me dit-il, personne ou presque personne ne les a utilisés depuis qu'ils sont rentrés dans ce fonds en 1945. Donc évidemment, là, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'usure de l'archive, trouve sa résonance dans cette petite histoire. Et quand il m'a dit, j'ai donc Irène Némirovski, un des seuls entretiens, peut-être même le seul entretien radiophonique, pour Radio Cité, qui était la grande radio privée d'avant la Seconde Guerre mondiale, créée par Marcel Blossen-Blanchet. Et d'autres archives, Colette et tout un tas d'écrivains, des grandes voix, des reportages. Et parmi les reportages, il y en a un ici.
L'archive qu'on va écouter là, nous sommes à la frontière franco-espagnole en janvier 1939. Et c'est une archive qui mérite de bien tendre l'oreille.
Nous nous sommes réveillés ce matin, mes chers auditeurs, avec une pluie diluvienne qui tombait sur Perpignan. Et avec l'espoir de trouver au Pertus le même calme que nous avions remarqué hier, à Cerbère, nous sommes montés jusqu'ici. Et là, ce qui nous attendait était purement effroyable. Je vous parle en ce moment de la rue principale du Pertu. Et si je vous parle mal, mes chers auditeurs, c'est que j'ai beaucoup de peine à contenir mon émotion. Le Pertu, ce n'est qu'une vaste cour des miracles où toute une humanité est soumise à une souffrance indescriptible à l'heure actuelle. Et la pluie diluvienne qui a tombé toute la nuit, et qui, tandis que je vous parle, ne cesse pas à ajouter à la souffrance de ces gens qui, depuis quelques jours, naturellement, sont privés de nourriture. Je suis descendu tout à l'heure jusqu'à la chaîne. C'est un spectacle effroyable. Il faut avoir vraiment aucune sensibilité, d'ailleurs, tous les journalistes qui sont présents, tous les officiers qui sont présents ont peine à retenir leurs larmes, je vous l'assure. Ici, on fait tout ce qu'on peut. Il est bien évident que c'est par dizaines que les camions s'efforcent d'évacuer, mais il faut du temps. Et ce n'est pas 10 camions qu'on voudrait voir ici, mais 100 camions. Ce n'est pas un docteur, il y a évidemment des docteurs, c'est 100 docteurs qu'on voudrait voir. Il semble qu'on assiste à une faillite, à une impuissance. Mais pourtant, je sais bien qu'ici, tout le monde fait preuve de bonne volonté. Seulement, c'est pas encore ça. Je ne sais pas, moi, c'est presque un appel au secours qu'il faudrait pousser pour qu'on envoie ici tout ce qu'il est nécessaire pour évacuer au plus vite ces femmes et ces enfants.
Emmanuel Laurentin, qui passe cet appel au secours, là?
Alors, d'après Thomas Henry, je n'ai pas encore cité son nom, c'est celui qui est venu avec ce projet de faire ce LSD qui est absolument extraordinaire à partir de ses archives sonores, mais aussi des archives écrites qu'il a collectées parce qu'il est allé voir la famille de Charles Wolff. Charles Wolff était très impliqué dans la guerre d'Espagne. Il était anarchiste dans les années 30 et il est allé couvrir pour des journaux anarchistes français la guerre d'Espagne. Donc, ça n'est pas pour rien non plus que dans sa collection, il y avait cette archive. Il semblerait, d'après Thomas Henry, que ça soit Pierre Crenet, jeune reporter de Radio Cité juste avant la guerre, il avait 18 ans. Et Pierre Crenès, il est connu par tous les historiens de la radio pour avoir été celui qui a réouvert en 1944, au moment de la chute du départ des nazis de Paris, donc au moment de la libération de Paris, qui a réouvert la radio nationale avec un reportage absolument extraordinaire conçu par Pierre Schaeffer, avec lui et tous ceux qui créent cette radio libérée de 1944. Donc c'est un personnage qui, évidemment, il a le ton de l'époque, il a cette verve des présentateurs de l'époque. On les connaît parce qu'on les a entendus à d'autres endroits, mais c'est un ami de Pierre Dac, par exemple, lui aussi juif, né en Alsace, etc. Il y a donc toute une dimension de cet bouleversement de la chute des républicains espagnols et du départ de Barcelone que, effectivement, il prend en compte et on se dit, évidemment, quand on entend ça, combien de reportages a-t-on entendu depuis? Que ça soit de reportages en Afrique, en Algérie, à Gaza aujourd'hui ou ailleurs, où on entend ce type de cri d'alarme, et on en est presque maintenant immunisé d'une certaine manière. Mais là, c'est les premières façons de dire à la radio qu'il y a une crise internationale qui se déroule à ce moment-là.
Antoine Guillot, comment vous avez ressenti cette archive quand vous l'avez entendue?
Je la trouve extrêmement impressionnante parce que d'abord, vous l'avez dit, cet homme a une langue, une littérature, une façon de parler qui est à la fois très maîtrisée et qui se bloque par moments. Oui. Il faut vraiment la réécouter pour entendre le rythme de sa façon de dire effroyable. Et juste avant, il s'est arrêté puisqu'il est débordé par l'émotion, puis il faut quand même qu'il fasse le job et il continue. Comme s'il écrivait. Enfin, une dramatique ne ferait pas aussi bien dans l'évocation de quelque chose. C'est quelqu'un qui fait un travail de critique. Je dirais parce qu'il décrit ce qu'il dit tout en mettant son avis sans que ça se dise, ça se sent. Enfin, c'est extrêmement fort. Et l'homme a 18 ans.
Et Caroline évoquait les décentralisations. Ben voilà. Ça, à la radio de l'époque, on arrive à avoir un camion qui monte au Pertus pour pouvoir interroger les réfugiés espagnols qui viennent de passer la frontière.
Caroline, vous voulez un dernier mot sur
ça? Oui, ça dit aussi la puissance de la radio. Ah oui. Ce que la radio permet. Autant, moi j'adore cette idée de cinéma à la radio qui est pour moi l'inverse total de la radio filmée d'aujourd'hui d'une certaine façon. Hein. Mais là, on a la puissance de la radio. Vous parliez des trois strates des archives, Emmanuel, au début. La nostalgie, la reconnaissance, l'usure. Là, on est vraiment même avant. On est dans une émotion pure en écoutant ça. Et on se tait.
On va finir sur ces mots. Grand merci à tous les trois d'avoir partagé vos souvenirs. Caroline Brouet, on vous écoute tous les dimanches à midi dans Les Bonnes Choses et 3 semaines sur 4 dans À Voix Nue. Antoine Guillot, on vous écoute tous les samedis à 13h30 dans Plan Large. Et Emmanuel Laurentin, si vous n'êtes plus au micro, vous n'êtes pas très loin. Toujours très présent à France Culture puisque vous êtes délégué au documentaire de l'antenne. Et bien sûr, toutes les archives diffusées dans cette émission sont à retrouver sur la page des Minutes Culture dans leur intégralité.